Xavier Lépine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de La Française. Alors, on va parler avec vous d'économie et de marché, hein, puisque on s'était vu la dernière fois, on avait parlé de cette économie, hein, ce capitalisme qui est en train de connaître une nouvelle révolution avec ce qu'on appelle la disruption economy, on peut dire économie de rupture, c'est ces nouveaux noms qui s'appellent Uber pour les transports ou Airbnb, par exemple, pour citer ces sociétés américaines. Aujourd'hui, vous dites, vous posez la question, vous dites, ça va péter, point d'interrogation. Donc ça nous interpelle forcément, puisque vous êtes investisseur, vous suivez ces marchés financiers. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous préoccupe peut-être?
Il y a un ensemble de points. Le premier point, c'est de dire finalement, si on regarde ce qui se passe depuis 40 ans, on a tous les 6-7 ans eu une crise. Ça a toujours été une crise qui a été causée à la base par de l'endettement. Et à chaque fois, depuis 73, on est 73, 79, 82, 87, 94, 2000. Et à chaque fois, 2000, 2007 évidemment. Et à chaque fois, cette crise s'est traduite par un transfert de l'endettement privé vers un endettement public. Donc cet endettement privé, c'était parfois les ménages, parfois les sociétés, parfois les banques. Et à chaque fois, on a eu toujours un endettement public qui est venu relayer et sauver le système. Aujourd'hui, on est passé à une étape supplémentaire. Les États sont surendettés. Et ce sont donc les banques centrales qui jouent leur rôle de prêteur en dernier ressort. Mais maintenant, on y est et on n'a plus personne derrière. Ce que je me dis, c'est on a eu une dernière crise en 92. Quand va arriver la suivante et pourquoi elle arriverait? Pourquoi elle arriverait? C'est la question qu'on peut se poser, elle est de nature, elle est économique et politique. Sur le plan politique, l'Europe n'a toujours pas résolu ses problèmes, on voit bien ce qui se passe avec la Grèce aujourd'hui. Donc, comment va-t-on sortir de ce système-là à partir du moment où les banques centrales peuvent arriver aussi en bout de course? Et sur le plan économique, on voit bien que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, que le potentiel de croissance, notamment en Europe, est extrêmement faible.
La différence justement par rapport aux précédentes crises, parce qu'on trouve ce même phénomène avec cet endettement endémique, habituellement on en sortait par de l'inflation, par quel support
Alors,
finalement?
effectivement, depuis quelques années, on parlait beaucoup comment ça s'appelle, de changement de système, d'évolution liée à la globalisation, tout cela. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation ne la décide plus. Donc, autrefois, quand on avait un problème de dette, ça se traduisait généralement par l'euthanasie du rentier. Alors, on avait différentes manières de le faire. L'inflation est un moyen très commode. Là, aujourd'hui, on voit que ça ne marche plus, puisqu'on ne peut plus créer d'inflation. On a même plutôt le problème inverse. Donc, on arrive dans une situation où, d'un côté, les États sont très endettés. Les personnes physiques, finalement, depuis 30 ans, ont plutôt accumulé du capital. Vous apercevez que dans les pays occidentaux, l'épargne représente 7 années de revenus, alors que la dette des pays, c'est entre 1 et 2 années. Il y a donc eu un transfert de richesse vers les particuliers. Jusque-là, très bien. La réalité, c'est que ce transfert de richesse vers les particuliers, il ne s'est pas fait de façon homothétique sur tous les particuliers. On le sait très bien, il y a une très forte concentration de la richesse sur un tout petit nombre, ce qui fait que l'une des raisons qui peut nous poser problème et qui est politique et sociale, c'est de dire les États ne peuvent plus aider les particuliers puisqu'ils sont surendettés, et dans la répartition de la richesse des particuliers, c'est très concentré. Donc on ne voit pas très bien comment, de ce côté-là, on peut s'en sortir. Sur le plan de la croissance, vous avez globalement trois théories. Vous avez la théorie de Jean Tirole qui nous dit on rentre dans une stagnation séculaire du fait des taux d'intérêt extrêmement bas. Stagnation séculaire veut dire augmentation du chômage, donc encore augmentation des inégalités de ce fait-là. On a d'un côté la nouvelle économie qui a l'air de se porter très bien et l'ancienne économie qui a accumulé une dette énorme et dont on ne voit pas la sortie. Donc on a la théorie de Jean Tirole qui nous dit quelque part ça peut péter. On a la théorie d'Alain Madelin qui nous dit au contraire on est face à une hypercroissance du fait de ces nouvelles technologies, mais on voit qu'elles sont concentrées sur très peu d'acteurs. Puis il y a la théorie de Jacques Attali qui il y a 5 ans écrivait tout se ruiner dans 10 ans. On s'en rapproche. Et là également, on peut légitimement s'interroger si l'Europe ne se crée pas plus, comment l'Europe peut-elle sortir de cette situation? Voilà, donc cette interrogation, elle est liée effectivement à ces disruptions, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des modèles économiques qui changent, avec des agents économiques qui ne changent pas. La disruption, concrètement, c'est quoi ? C'est finalement l'obsolescence qui est beaucoup plus rapide que la vétusté. L'obsolescence, on le voit par exemple quand on sort l'iPad 6 qui vient mettre à bas
l'iPhone 6, c'est pas grave. Parce qu'il y en sort
l'iPhone 6 qui met à bas l'iPad. Bon, ça, c'est un problème à la limite intra-Apple, mais c'est effectivement aussi l'immeuble tertiaire qui n'est plus, qui ne trouve plus preneur, alors parce qu'il est obsolète, bien qu'il ne soit pas vétuste. Et c'est aussi le cadre de 45 ans qui est tout simplement obsolète et qui ne trouve plus d'emploi dans cette nouvelle économie.
Donc il y a une vraie problématique de fond sur effectivement, parfois les investisseurs disaient pour l'Europe, c'est le Japon, donc on va avoir pendant une dizaine d'années de faible croissance, voire plus. Donc ça c'était quand on envisageait le pire en quelque sorte. Mais tant qu'on ne retrouve pas cette croissance, donc qu'on ne trouve pas des clés, pour peut-être aussi être dans la nouvelle économie, parce que là on a beaucoup parlé, mais de société américaine aujourd'hui.
Oui, c'est l'une des difficultés pour l'Europe, c'est qu'effectivement il y a de la croissance, notamment dans la nouvelle économie, mais est-on organisé en Europe pour aller dessus ? Effectivement, les Japonais n'ont pas de croissance maintenant depuis 20 ans, mais ils n'ont pas de démographie non plus. Donc à la limite, c'est très triste pour eux, mais l'année dernière, ils ont vendu plus de couches-culottes pour adultes que de lait maternisé pour enfants. Bon, c'est une société vieillissante. On a la chance de ne pas avoir cette société vieillissante en Europe, mais la contrepartie, c'est qu'est-ce que l'on fait des gens si effectivement ils n'ont plus de rôle au sens producteur du terme. Donc le robot est en même temps merveilleux puisqu'il va remplacer beaucoup de choses. Il ne fait pas grève, il ne fait pas les 35 heures, il peut travailler toute la semaine. Donc on ne se posera pas la question de l'ouverture du dimanche pour un robot, mais comment occupe-t-on les gens ? Enfin, je veux dire, dans leur rôle de producteur. Et là, effectivement, aux États-Unis, on a certes encore une croissance de population importante, mais clairement, la technologie se développe beaucoup plus rapidement là-bas, parce que les infrastructures économiques, sociales, politiques sont beaucoup plus orientées.
Donc ça va être effectivement l'enjeu des prochains mois. Alors, je disais en introduction, vous êtes aussi investisseur, la française bien entendu. Ça veut dire que c'est plus compliqué aussi d'investir dans ces marchés-là, puisqu'on parle à nouveau de nouvelle économie, et puis on voit cette croissance qui n'est pas là, notamment en Europe. Ça n'empêche pas les marchés, quand on regarde en ce moment, le CAC 40 est au plus haut. Donc il y a des paradoxes aussi de marché.
Les paradoxes de marché, effectivement, ils existent toujours à court terme. On a bien vu historiquement qu'on pouvait avoir des croissances importantes et des marchés boursiers finalement faibles, et réciproquement. Bon, ces phénomènes de balancier, de rattrapage, de liquidité, aujourd'hui on a un hélicoptère qui donne de la liquidité quasiment infinie avec la décision de quantitative easing de la BCE, ça fait mécaniquement monter les marchés. Bon. Après, il y aura la vérité et il faudra savoir sortir à un certain moment pour aller se positionner là où il faut. Ce que veulent les investisseurs est assez clair. Ils se disent, je veux des produits de cash flow, donc qu'est-ce que je peux avoir comme produit de cash flow avec un degré de certitude suffisamment fort. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est quand même un peu paradoxale, dans le sens où les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que les dividendes. C'est pas un état naturel de l'économie, ça peut durer un certain temps. Maintenant, il va falloir ça signifie aussi clairement que le couple rendement sur risque est extrêmement dégradé. C'est-à-dire que le rendement est faible par rapport au risque qui augmente. Donc ce qui veut dire que les portefeuilles sont globalement plus risqués, ça c'est purement mathématique. Maintenant, comment répondre à cela en tant qu'asset manager ? Je pense que la diversification entre des actifs réels générateurs de cash flow, l'utilisation des produits dérivés pour se couvrir d'un certain nombre de risques extrêmes sont aussi une réponse. Et d'une manière générale, une agilité dans les marchés. En parlant de risque extrême, on a bien évidemment l'Europe qui est un risque extrême, ça, comment peut-on se couvrir? Il y a des CDS sur les écartements de spread entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. Ça peut être une solution, c'est-à-dire le recours à un gérant pour le faire. Vous avez également, vous avez un risque de cyberattaque qui manifestement devient de plus en plus important. C'est pas tant la cyberattaque en soi qui est un problème, encore que, mais la réalité, c'est que ça peut vous faire chuter le Nasdaq de 50%. Que doit faire un gérant d'actifs? Se protéger de cette baisse et probablement acheter, peut-être cher, des sociétés qui développent des technologies pour se protéger des cyberattaques. Et vous pouvez raisonner également pour cela dans le domaine de la carbonisation, enfin de tout ce qui est du domaine du carbone, qui est à l'évidence un sujet de moyen terme, mais le moyen terme, il est aujourd'hui. Là également, la baisse du prix du pétrole est une opportunité unique pour mettre en place une taxe carbone et résoudre ce problème.
Donc là, ça va être clairement pour l'investisseur, lister tous les risques, et ils sont nombreux, et agir en conséquence.
Tout à fait.
Merci à Xavier Lépine d'avoir été avec nous.
Merci.